Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie et cette émission Au fil des pages qui a pour objet de vous présenter un roman de René Bazin de l'Académie française, son roman Madame Corentine, qui est paru pour la première fois en 1893 et qui vient d'être republié en 2011 par les éditions Siloé. Et cela grâce à Jacques Richoux, qui est l'arrière-petit-fils de l'académicien et le président de la Société des Amis de René Bazin, une association qui veut perpétuer et développer le rayonnement littéraire de René Bazin. Bonjour, monsieur Richoux.
Bonjour, madame. Merci de nous accueillir. Nous sommes contents de parler de René Bazin.
De nouveau, puisque vous êtes déjà venu une fois dans le studio de Canal Académie pour parler des Noëlets, un autre roman. Eh bien là, nous avons le plaisir de parler de Madame Corentine et plus globalement, on va parler aussi de l'œuvre de René Bazin avec Mathias Burger, qui est étudiant à la Sorbonne, qui vient de consacrer son mémoire de Master 2 à l'œuvre romanesque de René Bazin. Bonjour Mathias.
Bonjour madame.
Soyez bienvenue dans Merci. Le studio de Canal Académie. Merci à vous deux. Alors je voudrais juste donner quelques informations, si vous me le permettez, pour rappeler et resituer René Bazin. Il est né à Angers le 26 décembre 1853. C'est une ville où il enseignera à l'université durant toute sa vie. Et s'il a fait des études de droit, René Bazin s'est vite consacré à rédiger d'abord des articles dans des journaux et rapidement des romans qui ont été publiés en feuilleton dans les journaux de l'époque, comme ça se faisait à cette époque-là. Et son roman, par exemple, Une tache d'encre, paru en 1888, sera couronné par l'Académie française. Alors c'est grâce à Ludovic Halévy, Halévy sur lesquels Canal Académie, lesquels je dis parce qu'il y a plusieurs Halévy, Canal Académie a fait déjà d'autres émissions, eh bien Halévy de l'Académie française conduit René Bazin dans les milieux littéraires parisiens où il se fait connaître et chez l'éditeur Calman Lévy. Et après la guerre de 1870, il devient l'un des écrivains de la revanche, comme on disait, notamment avec le grand succès de son roman « Les Oberlés » qui se déroule en Alsace. Alors l'œuvre de Bazin, c'est une cinquantaine de titres, dont les plus connus sont « Les Oberlés »,« La terre qui meurt » et tout à fait à la fin de sa vie, le Magnificat que nous avons tous lu. René Bazin donc, a été élu à l'Académie française au fauteuil 30, succédant à Ernest de Legouvet, élu le 18 juin 1903 et reçu sous la coupole le 28 avril 1904, le discours de réception était prononcé par l'historien de la littérature française, Ferdinand Brunetière. Bazin avait donc 50 ans et il est resté académicien durant 39 ans, puisqu'il est mort le 20 juillet 1932. J'en ai terminé avec cette courte présentation, pardon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais donc rappeler que le roman Madame Corentine est paru aux éditions Siloé et qu'il bénéficie d'une préface de Patrick Poivre d'Arvor. Jacques Richoux, pourquoi ?
Eh bien, parce que Patrick Poivre d'Arvor réside exactement à l'endroit où se déroule le roman.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire à Perros-Guirec. Nous sommes en Bretagne-Nord, un endroit où la mer est magnifique et où les paysages sont sublimes et épiques, comme le disait René Bazin. Et par conséquent, Patrick Poivre d'Arvor a trouvé ce roman délicieux et très touchant.
Alors il raconte dans sa préface, ça vaut la peine de le dire tout de même, que la propriétaire de la petite maison de pêcheur que j'ai acquise à Trégastel il y a plus de 30 ans s'appelait Madame Léhérec, ce qui est le nom de l'héroïne du roman. L'histoire ne dit pas s'ils sont parents ou non, mais enfin, il a repris un nom.
Il y a deux générations entre les deux, on ne sait pas, mais enfin, l'histoire est amusante.
Alors Jacques Richoux, on sait que, donc, je l'ai dit, l'Anjou est la terre natale de René Bazin, il est très attaché à sa terre natale, et pourtant là, dans Madame Corentine, le voici en Bretagne. Alors pourquoi ce changement ?
Alors, effectivement, il est très attaché à l'Anjou, mais pendant ses 39 années d'académicien, il vivait à Paris. Et je vais vous répondre très simplement, c'est parce qu'il était journaliste et qu'il a fait des reportages dans toutes les régions de France, en Europe et même dans le Nouveau Monde, au Spitzberg, en mer du Nord, etc. Et par conséquent, la Bretagne, ça fait partie d'une première chronique journalistique et il a été conquis par cette région de Perros-Guirec, Lannion, Jersey.
Alors, dans le roman que vous allez nous résumer, il y a d'ailleurs un très gros conflit entre les gens de Lannion et les gens de Perros-Guirec. C'est peut-être pas la même Bretagne.
Et oui, j'ajouterais même Tréguier.
Parce et que Tréguier, oui.
Tréguier,
oui,
c'est le lieu de l'évêché. Et il y a vraiment des conflits sociaux qui sont complètement d'un autre monde, d'une autre époque. C'est absolument incroyable. Tombé de Tréguier à Lannion. Alors, il parle en particulier des émigrés espagnols de Lannion. C'est très amusant. Il compare l'austérité de la Bretagne du Nord de Tréguier à la folle vie de plaisir de Lannion. C'est très, très curieux. Je me suis renseigné sur place pour savoir si ça continuait. On m'a dit que ça s'est quand même un peu atténué.
Vous nous rassurez. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire Madame Corentine, on suppose que c'est l'une des héroïnes du roman. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs.
Alors, Corentine, c'est le nom de l'évêque célèbre de Quimper, Monseigneur Corentin. Mais Madame Corentine, c'est une histoire de rupture conjugale. C'est une histoire de couple. C'est tout à fait d'actualité. Et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que c'est l'histoire, pendant 270 pages, de querelles dramatiques, mais qui se terminent par une reconstruction magnifique grâce à une adolescente. Voilà le livre, tout simplement.
Mais en même temps, le livre ne nous présente pas les querelles du couple. Quand on entre dans le roman, le couple est déjà séparé.
Absolument. Et il y a même eu un divorce suite à la loi de 1884, la loi Naquet, qui avait légalisé le divorce. C'était donc les tout débuts du divorce. Et je crois que c'est très important de souligner que René Bazin ne juge pas le divorce sur un plan moral, mais il analyse les ravages et les tristesses et les drames qui s'en suivent. C'est ça, il ne juge pas. Et comme vous le dites, on ne décrit pas du tout dans ce livre la querelle homme-femme, mais on décrit le désarroi de tous les abandonnés et voilà, de tous ceux qui se trouvent seuls, abandonnés.
Tout le monde en souffre, en
tout
fait.
Le monde en
à
souffre.
La fois le couple, mais aussi les enfants, mais aussi la belle-mère, qui finalement est très importante aussi dans le roman.
La dernière ligne du roman, c'est vraiment un succès, parce que la belle-mère dit fièrement « Je vais retourner à Tréguier ». Elle a donc quitté l'entreprise, elle a quitté les querelles conjugales de couple avec sa belle-fille, et elle retourne à Tréguier, dans sa noblesse hautaine.
Alors Mathias Burguet, vous étudiez l'œuvre romanesque de René Bazin. Que pouvez-vous dire de cette œuvre, Madame Corentine? Comment se place-t-elle dans le reste de l'œuvre?
Oui, d'abord, je voudrais préciser que dans le cadre de mon mémoire de Master 2,
Mention très bien, je le dis.
J'ai choisi de m'intéresser uniquement à la production romanesque de René Bazin, qui compte quand même une vingtaine de titres, parce que sa production littéraire autre que romanesque est extrêmement abondante, puisqu'il a rédigé aussi des contes, des nouvelles, des récits de voyage, des biographies, même une autobiographie, ainsi qu'un certain nombre d'essais, de préfaces, des discours, des articles de journaux, auxquels on pourrait rajouter une correspondance extrêmement volumineuse. Et dans le cadre d'un simple travail de master, donc de 2 années, je n'avais pas le temps de travailler sur l'ensemble de ces documents-là. Donc je me suis restreint au domaine romanesque, le domaine par lequel il a eu le plus grand succès et qu'il a fait connaître au public.
Et vous avez l'intention de poursuivre après, au-delà?
Éventuellement, après ce Master 2, pourquoi pas continuer sur un projet de thèse consacré cette fois-ci à la globalité de l'œuvre de René Bazin.
Alors vous êtes un pur littéraire, vous?
Oui,
on dit
pas
que
exactement.
Les garçons ne sont pas littéraires.
Pas exactement. En fait, après 3 années de prépa littéraire, Hippocane et Cagne au lycée Fénelon, je suis rentré en master d'histoire à la Sorbonne. Et c'est ça aussi qui fait l'originalité de mon travail, c'est que les rares études qui avaient été consacrées à René Bazin jusqu'à aujourd'hui étaient exclusivement des études de lettres modernes. Et c'est la première fois qu'un mémoire est soutenu en histoire sur René Bazin.
Ah, donc c'est un mémoire d'histoire.
C'est ce qui fait la spécificité de ce mémoire.
Important, donc vous venez de le soutenir et, je le répète, vous avez obtenu un grand succès et on s'en réjouit. Comment Bazin se documente-t-il, Jacques Richoux, pour justement aller faire un reportage sur place en Bretagne? Après, comment fait-il? Il prend des notes?
Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, quand vous l'avez présenté, c'est un journaliste. Il va sur place, il reconnaît, il parle avec les gens, il s'intéresse aux gens les plus simples, les plus humbles. Il n'aime pas les honneurs, il n'aime pas aller se mettre en avant dans les cocktails du soir, mais il parle avec les gens, il va et il revient Vous avez cité tout à l'heure les Oberlés. C'est tout à fait manifeste. C'est incroyable de voir comment est-ce que 110 ans après, il y a des familles en Alsace qui se rappellent des reconnaissances de René Bazin. C'est passé de génération en génération. Il est allé à plusieurs reprises. Donc, s'agissant de Madame Corentine, il a fait un premier voyage lors d'une chronique journalistique en 1889, donc 4 ans avant de publier ce livre. Et puis, il y retourne, et comme il l'écrit, comme on le voit dans ses notes, ce roman, il est pour moi. Ce livre, il est pour moi parce que j'ai vécu vraiment intensément cette histoire vraie que j'ai connue, que j'ai rencontrée là-bas et que je veux décrire dans ce roman.
On sent en le lisant qu'il est tombé amoureux de la mer, des couleurs, des odeurs, des gens rudes. Il est vraiment amoureux, n'est-ce pas, Mathias?
Voilà, tout à fait. Je voudrais revenir aussi sur cette méthode vraiment qui fait l'originalité de René Bazin parmi tous les grands auteurs du 19e siècle. C'est ce souci permanent de se documenter le plus possible. C'est pour ça que j'ai qualifié René Bazin dans mon mémoire d'ethnologue, voire de sociologue. Vraiment, il cherche à faire connaître les populations de son époque aux gens de son époque et à ceux qui vont les suivre. C'est particulièrement visible à travers les nombreux voyages qu'il fait dans les régions. Et non seulement il se documente sur les lieux qu'il va s'attacher à décrire, mais aussi également sur les personnes. Il rencontre énormément de gens, note les conversations qu'il a avec eux et parfois n'hésite pas à reproduire ces conversations quasi in extenso, ce qui rend les personnages extrêmement réalistes et ce qui permet vraiment d'ouvrir une porte dans le 19e siècle. C'est ça qui fait, à mon avis, encore la modernité et l'intérêt de René Bazin aujourd'hui, c'est cette description extrêmement précise du 19e siècle qui permet à un lecteur d'aujourd'hui d'y rentrer extrêmement facilement. En parallèle de mon mémoire, je travaille dans un lycée où je donne des cours d'histoire. J'ai parlé à plusieurs reprises de René Bazin à mes élèves de première. Et grâce à des lectures d'extraits de ses romans, ils ont pu plus facilement comprendre ce qu'était le 19e siècle.
Certainement, donc il s'attache aussi à l'aspect social, aux difficultés sociales. Bon, là on est dans un milieu rude, hein, un milieu d'ailleurs où l'usine va faire faillite, un milieu aussi de pêcheurs naturellement, avec un qui pourrait avoir péri en mer, enfin toute cette angoisse qu'il arrive à bien faire ressortir. C'est un roman que l'on peut lire véritablement avec grand intérêt, mais je voudrais savoir aussi quelles sont les valeurs dans ce roman qu'il essaie de défendre. Vous avez dit déjà la famille, bien sûr, puisque...
Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure de la poésie de la mer, de la beauté de la mer. Je crois que la première valeur qu'il a voulu mettre en évidence, c'est vraiment la beauté de notre cadre de vie et de la beauté des provinces qu'il a visitées. On ne l'a pas cité parce que c'est loin de la Bretagne, mais il a écrit des livres magnifiques sur la terre d'Espagne, le Pays Basque, vous voyez, la beauté du cadre de vie. Ça, je crois que c'est la première chose. Alors ensuite, la seconde, puisque vous parlez de famille, moi, je voudrais plutôt m'attacher à l'homme dans sa globalité. C'est une chose que je crois qu'il est intéressant de souligner. Il a écrit dans ses carnets, en parlant de ses contemporains naturalistes comme Zola ou d'autres, « Aujourd'hui, on ne fait plus que la littérature des corps, hein, ou la littérature des sens, en descendant de plus en plus dans la misère et dans les contradictions. » Eh bien non, René Bazin, il s'intéresse à l'homme dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la sensibilité, il s'intéresse à l'intelligence. Vous parliez de ces marins, ce grand-père Gwen, là, qui était vraiment un homme...
Très intelligent, voilà. Oui, absolument.
Donc, l'intelligence, mais aussi le cœur, vous voyez, l'homme dans sa globalité. À mon avis, la valeur qu'il veut développer, c'est de ne pas négliger une partie de notre nature. Voilà, c'est l'homme sous tous ses aspects. Non pas pour porter des jugements moraux, mais pour décrire l'homme complet.
Alors j'ai dit que la préface était signée de Patrick Poivre d'Arvor, mais il y a aussi une introduction ou une présentation qui est signée Jacques Boislève. Et cette présentation est fort utile pour connaître un petit peu la manière dont René Bazin préparait ses romans. Qui est Jacques Boislève?
Alors Jacques Boislève, c'est un ancien journaliste du quotidien Ouest-France qui s'est passionné pour toutes les régions Bretagne, Pays de Loire. Et j'ai noté dans cette présentation que vous soulignez un sous-titre qui est « René Bazin, peintre de l'âme féminine ». Et j'y vois là une modernité, parce qu'à son époque, c'était pas tellement habituel de parler des femmes comme ça, de leur nature, de leur sensibilité, de façon aussi précise et en les mettant tout à fait sur un rang d'égalité avec les hommes. Je vois là une modernité qui serait à creuser. Il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont René Bazin savait peindre l'âme féminine.
Mathias, vous avez opiné du chef, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ses propos?
J'approuve tout à fait les propos de Jacques Richoux, et c'est vraiment ce qui contribue à rendre René Bazin encore lisible et très actuel aujourd'hui, c'est la finesse de l'analyse psychologique. On peut prendre un exemple très simple, à peu près au même moment que la parution de Madame Corentine, Paul Bourget sort un livre également consacré au divorce, et qui s'appelle d'ailleurs Le Divorce, et la différence entre les deux auteurs, entre les deux romans, est extrêmement importante, et contraste avec l'image que l'on en a habituellement. On a parfois tendance à considérer René Bazin comme plus désuet que Paul Bourget, et en l'occurrence, à la lecture des deux romans, c'est plutôt le contraire. Paul Bourget se lance dans une critique très virulente du divorce pour des motifs uniquement religieux. C'est une littérature à ce moment-là très rigoriste, très moraliste. Au contraire, René Bazin juge le divorce uniquement en des termes psychologiques. Il ne se pose pas la question de la morale, mais uniquement du bien et du mal qui ressort de ce divorce-là. Et ce qui est très significatif, c'est que dans la plupart des romans de René Bazin, on a une figure extrêmement importante du prêtre, et que dans Madame Corentine, cette figure est totalement absente.
Oui, en effet, il n'y a pas de figure religieuse dans Madame Corentine. Mais bon, voilà, donc on vous incite tous à lire et à vous procurer Madame Corentine, donc aux éditions Siloé. Encore une dernière question, s'il vous plaît, Mathias, pour qu'on comprenne bien. Quel est le lien entre René Bazin et Jean-Pierre Hervé Bazin?
Alors, Jean-Pierre Hervé Bazin est le petit-neveu de René Bazin. C'est en fait le petit-fils du beau-frère de René Bazin, qui s'appelle Ferdinand Jacques Hervé Bazin.
Hervé Bazin, c'est donc un nom de famille.
Alors c'est à l'origine un nom de famille.
C'était pas Hervé son prénom et Bazin son nom.
C'est à l'origine un nom de famille. Et ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui on retient Jean-Pierre Hervé Bazin uniquement sous le nom Hervé Bazin, en confondant d'ailleurs le prénom et le nom, c'est l'éditeur de Jean-Pierre Hervé Bazin qui l'a poussé à agir de la sorte pour justement revendiquer cette filiation avec René Bazin, en pensant que ça permettrait de mieux vendre ses romans, et c'est ce qui s'est passé.
Ils se sont fort bien vendus, en effet. Je vous remercie tous les deux de nous avoir présenté cet ouvrage, donc Madame Corentine, de René Bazin de l'Académie française, aux éditions Siloé. Je voudrais rappeler qu'avec Jacques Richoux, nous avons déjà fait une émission consacrée à un autre roman de René Bazin, Les Noëlets, émission que vous pouvez donc télécharger si vous êtes membre du club Canal Académie. Et j'espère que nous aurons l'opportunité de vous recevoir à nouveau pour évoquer d'autres aspects de ce grand écrivain.
Je vous remercie.
Merci à Mathias Burger et félicitations pour votre maîtrise. Pour goûter le style de René Bazin, nous vous proposons la lecture de quelques extraits. On l'a dit, René Bazin était angevin, mais a découvert la Bretagne avec éblouissement. En témoigne cette phrase et le passage décrivant Madame Corentine revenant à Lannion, terre de son enfance, après 10 ans d'exil à Jersey.
Est-ce beau cette Bretagne ? Madame Léréec répondit avec moins d'accent, mais avec un sérieux qui n'échappa point à Simone. « Oui, très beau. Cela fait je ne sais quoi de se retrouver en France, n'est-ce pas, Simonette ?» Madame Corentine, assise à droite, au fond de la calèche, resta d'abord silencieuse et distraite. Souvent, elle jetait un regard rapide sur les hauteurs qui cachaient Lannion. Ses yeux s'animaient comme au voisinage du danger. Un sentiment de révolte et de défi faisait redresser cette petite tête volontiers hautaine. Puis l'émotion d'une minute s'effaçait. Les yeux bleus se laissaient prendre aux détails familiers de la route. Un apaisement, un demi-sourire détendait la physionomie de la jeune femme. Madame Corentine passait où elle avait passé petite fille, jeune épousée. Quand les collines de Lannion, évitées par un long détour, bleuirent derrière la voiture, quand les chevaux, rendus plus vite par les effluves salins, commencèrent à trotter sur la route de Perros, cette impression devint dominante et se fixa. Madame Corentine répondit aux questions de sa fille, s'intéressa à tous les clochers de l'horizon, se pencha quand Simone se penchait pour lire sur les bornes les kilomètres franchis. Les inquiétudes avaient disparu. Le charme du pays natal prévalait souverainement. La mère et l'enfant se retrouvaient, unis dans la même attente joyeuse. Au sommet des côtes, les pignères dressaient leurs bouquets de poils drus qui chantaient. Par l'ouverture étroite des vallées, chacune ayant son ruisseau plein de menthe et sa ferme écrasée par les arbres, la mer apparaissait entre deux pointes de falaises d'où venait le souffle frais et l'étincelle des vagues. On approchait de Perros.
René Bazin se documentait sur les traditions bretonnes en se rendant sur place. Et il n'est pas douteux qu'il ait assisté au pardon qu'il décrit ainsi.
Enfin, les cloches sonnèrent, mêlées au vacarme de la fanfare du collège de Tréguier, pour annoncer le départ de la procession. Et voilà, sortant de la chapelle et refoulant la masse noire des curieux, la croix d'argent, au bras de laquelle pendent 6 clochettes en carillon. Puis les petits garçons et les petites filles des villages avec des banderoles, les pupilles de la marine en vareuse bleue, le col ouvert, qui portent 3 vaisseaux, de ceux qui tournent toute l'année au bout d'une corde devant l'autel. Quand les jeunes filles passent, Simone, qui a eu de la peine à obtenir la permission de Madame Corentine, se met au milieu d'elles, dans le rang le plus proche, et commence à descendre la pente. La mère reste seule. Les jeunes femmes défilent à leur tour sur 2 rangs, graves, ayant encore leur air de vierge. Elles tiennent d'une main leur cierge, de l'autre un petit paquet blanc ou gris, l'enfant nouveau-né qu'elles consacrent ainsi à la mère d'Espérance, dont la statue s'en va devant. Celles qui suivent n'ont plus leur mari. Elles ont quitté les châles clairs, enlevé l'épingle qui tenait assemblées les ailes de leur coiffe, et les 2 bandeaux, maintenant, pendent sur leurs épaules. Un seul jour a suffi. Le regard dur et défiant de la race a reparu en elles.
La petite fille, Simone, confiée à la garde de sa mère, Madame Corentine, après la séparation de ses parents, a obtenu l'autorisation de passer quelques jours auprès de son père, Monsieur Lérehec, dont l'usine est en train de sombrer. René Bazin a su parfaitement décrire la petite fille écartelée entre ses 2 parents.
« Comme il fait doux dehors !» dit Monsieur Lérehec. « Vois donc, on dirait une journée d'été !» Simone lui donnait le bras, et pour qu'elle ne remarquât pas trop les lézardes du moulin, ni les fenêtres grillées d'où pendaient des brins de paille semés par les moineaux, il lui montrait, en avant, les collines boisées, très nettes, un peu blondes à cause des bouleaux et des platanes déjà touchés par les nuits fraîches. L'enfant regardait, mais elle se sentait prise d'un malaise grandissant, d'une envie de pleurer, car bien plus près que les collines, là, touchant son bras, il y avait un secret douloureux qu'on lui cachait. La porte de l'usine se referma sur eux. Ils commencèrent à descendre seuls, sans témoin, dans la plaine verte. 10 minutes encore et cette intimité entière ne serait plus. Simone ralentit le pas et, très doucement, comme si elle suivait une conversation déjà engagée, elle dit « Ce sont mes derniers jours auprès de vous, en effet. » Un pressement du bras, un tressaillement de blessé qu'on effleure, lui répondit « Je ne puis pas rester plus longtemps, ma mère est seule à Saint-Hélier. Elle te réclame ?» « Non, elle m'a permis de venir. Elle me laisserait encore si je le lui demandais. C'est moi qui m'en dirai, et je m'en dirai triste. »« Triste, oh oui, je sais bien, entre ta grand-mère et moi. »« Non, non, pas cela, pas cela. Non, 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 ce n'est pas cela que je veux dire. Vous avez été très bons tous deux. Je ne me plains de personne, que de moi, qui n'ai pas réussi à me faire aimer. »« Simone, que dis-tu là ? Toi, pas aimée, toi qui étais l'unique joie de... » Et devinant qu'elle pleurait silencieusement à côté de lui, il dégagea son bras de celui de Simone, entoura la taille de l'enfant et, marchant à peine pour mieux l'entendre, se courbant un peu pour être plus près de cette tête chérie, comme on fait quand les tout-petits ont une peine. « Qu'as-tu, ma Simone ?» Mais elle n'osait pas le regarder. Elle, rendue plus forte à cause de cela, légèrement détournée vers la rivière, continua avec des phrases d'enfant qui cachaient une douce pensée de femme. « Je n'ai pas réussi à me faire assez aimer, vous le voyez bien, puisque vous me laissez partir. Je voudrais ne plus partir, je voudrais vivre entre vous, que j'aime bien, et maman qui est bonne aussi, très bonne. Si vous saviez comme c'est triste de vous aimer tous deux et de vivre toujours loin de vous ou loin d'elle. » Il la pressa doucement contre lui, l'espace de 10 pas. Sans répondre, tâchant de dominer le grand trouble où cet enfant le jetait. Et quand il parla, sa voix tremblait, et lui aussi regardait la rive fuyante du Guer et la petite ville où pointait le toit de l'hôtel Massimone. « J'ai pensé à cela bien des fois avant que tu vinsses, et depuis surtout que tu es venu. Je savais le bonheur que ce serait pour toi. J'étais sur le point de te demander si ta mère consentirait. J'en suis sûr, dit vivement Simone. Sûr comme de vivre.
Merci à Fernand Guillot qui a assuré les lectures de ce roman, Madame Corentine de René Bazin, qui est republié aux éditions Siloé. Et merci à vous de votre écoute sur Canal Académie.